Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Julie Gacon, Céline Leclerc, Fanny Richet, Assa Maquet, réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son ce soir, Florent Hanoun. À Quenay, j'étais étudiant en 2012, plutôt qu'en 1980 et quelques années. À l'époque, la technologie ne nous offrait pas grand-chose pour suivre notre scolarité sans passer par la case grand amphi. Il fallait payer, un prix modique certes, mais payer tout de même pour récupérer les cours magistraux sur des Ronéo composés par des étudiants scrupuleux ou vénaux, ou les deux d'ailleurs. Être étudiant aujourd'hui est tellement plus simple, il suffit d'être connecté. Internet a dématérialisé le savoir. L'université en ligne avance à petits pas. Le lancement de France Culture Plus aujourd'hui symbolise bien la mutation qui est en train de traverser le monde de l'éducation dans son ensemble et l'enseignement supérieur en particulier, puisque c'est le sujet qui nous occupe ce soir. Mutation aujourd'hui, révolution dès demain. Il suffit de regarder ailleurs d'ailleurs, plutôt que dans le futur pour s'en convaincre. À l'étranger, des universités comme Stanford en Californie ont fait le choix de la démocratisation de l'enseignement en proposant une partie de leurs cours gratuitement sur Internet. Succès immédiat. En France, grandes écoles et universités peinent à suivre ce mouvement, pas uniquement par manque de moyens. La culture numérique se diffuse lentement au sein de la communauté éducative, peut-être par prudence, pas forcément excessive. Après tout, il ne suffit pas d'avoir de nouveaux outils pour changer la manière d'enseigner, encore faut-il leur donner un sens. Alors la pédagogie est-elle dématérialisable? C'est notre sujet du jour. Et quatre invités pour en parler ce soir. Pierre Tapie, bonsoir. Vous êtes directeur général du groupe ESSEC depuis 2001 et jusqu'en juin prochain. Vous présidez la conférence des grandes écoles, l'ESSEC et la CGE, qui ont eu la bonne idée de passer un partenariat avec France Culture Plus, cette fameuse plateforme de France Culture, donc, dont nous vous parlons depuis ce matin, qui est destinée aux étudiants. Pour discuter avec vous ce soir, François Germinet, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'université de Cergy-Pontoise, qui compte environ 15 000 étudiants. Université qui n'est pas encore partenaire de France Culture Plus, mais ça va venir, car vous présidez le comité numérique de la CPU, conférence des présidents d'université, qui, elle, s'est associée à notre belle chaîne pour discuter. J'arrêterai de faire de la pub après, je vous rassure tous. Pour discuter avec vous deux ce soir, Julien Gauthier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez la philosophie dans un lycée du département de l'Oise. Vous avez fondé notamment un site internet qui est très fréquenté par les professeurs de lycée, scolé.fr. Vous y consacrez de nombreux dossiers sur le numérique à l'école. Et puis notre quatrième invité ne vient pas de très loin puisqu'il tient une chronique régulière, voire quotidienne sur France Info. Il s'agit d'Emmanuel Davidenkoff. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste spécialiste des questions d'éducation. Vous êtes également directeur de la rédaction de L'Étudiant.
Et alors, à ce titre, partenaire de France Culture Plus. C'est raté pour ne plus en parler.
Bravo. je voulais éviter, mais merci de l'avoir fait.
Je l'ai fait
à la place, Emmanuel. Alors, rentrez tout de suite dans le vif du sujet pour peut-être d'abord essayer de dresser un rapide état des lieux de ce qui existe en matière de pédagogie dématérialisée aujourd'hui au niveau des grandes écoles et des universités. Dans l'université que vous présidez, François Germinet, celle de Cergy-Pontoise, j'ai vu qu'il y avait une université ouverte en ligne, universitéouverte.u-cergy.fr, on peut retrouver le lien sur notre site. Est-ce que vous y proposez la totalité ou la quasi-totalité des cours qui sont dispensés à l'université, ou bien est-ce que c'est une sélection? Comment est-ce que ça fonctionne?
Il s'agit en fait d'un programme extrêmement spécifique, ce sont des conférences ouvertes à la société, à qui souhaite venir les écouter, tous les jeudis, les jeudis de chaque mois, et nous enregistrons ces conférences-là et nous les retransmettons sur notre site internet.
Donc on est plutôt dans l'idée de l'université populaire mais qui sera en ligne?
Université populaire en ligne. Si vous voulez aller sur le côté de la pédagogie dématérialisée, on peut regarder ce qui se fait du côté de l'Institut universitaire de formation des maîtres à l'Université de Cergy-Pontoise, où nous avons depuis deux ans 250 étudiants qui suivent des cours de formation pour devenir enseignants 100% en ligne et 100% dématérialisé.
Alors si on veut aller voir comment ça se passe du côté de la pédagogie dématérialisée, du côté de l'ESSEC, Pierre Tapie, il faut aller sur un site, myessec.com, sauf que je n'ai pas pu aller très loin parce qu'il faut des mots de passe pour essayer d'avoir accès aux ressources pédagogiques, aux cours notamment.
En effet, nous réservons l'ensemble de cette technologie essentiellement à nos apprenants, qu'ils soient en formation initiale et en formation continue. Et nous avons fait le choix, il y a déjà une vingtaine d'années, d'utiliser les technologies numériques de multiples manières. Aujourd'hui, c'est aussi bien pour créer des communautés virtuelles d'apprentissage où, à l'occasion de chaque cours, professeurs et étudiants échangent dans un cercle qui est le cercle du cours des matériaux pédagogiques, des copies, des résultats sur certains cas traités, etc. Que de grands jeux collectifs. C'est une pédagogie que nous avons mis en place là aussi il y a assez longtemps et qui permet d'avoir jusqu'à 500 à 600 personnes qui, par petites équipes de 5 ou 6, jouent les uns contre les autres dans des jeux assez sophistiqués.
Et pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de la réserver à vos apprenants, comme vous dites, et ne pas ouvrir certains cours à l'ensemble du public qui se retrouverait sur Internet?
Alors aujourd'hui, la question est posée très clairement. Nous le faisons pour des raisons de protection des droits d'auteur, en particulier, une question encore non résolue. Nous mettons un certain nombre de choses directement sur Internet, mais en nombre plutôt restreint, dans la mesure où la connaissance qui est basée sur des publications scientifiques, elle, est complètement disponible. Donc sur l'aspect pédagogique proprement dit, il est vrai qu'il y a des éléments de pédagogie que nous souhaitons réserver à nos apprenants.
Julien Gauthier, vous êtes enseignant philosophie dans un lycée. Est-ce que vos cours, on peut les retrouver facilement en ligne? Est-ce que, en tout cas, c'est une méthodologie qui vous intéresse et que vous pourriez utiliser?
Alors, oui, ça m'intéresse et je pense que l'école à tous les degrés doit se saisir de ces technologies numériques, notamment pour les possibilités de diffusion, d'échange qu'elles permettent. Alors en lycée, non, à ma connaissance, enfin en ce qui concerne mes cours, ce n'est pas le cas. Et à ma connaissance, très peu d'établissements ont développé des dispositifs techniques permettant cela.
Vous pourriez le faire, enfin, c'est-à-dire vous auriez l'autorisation de le faire si vous aviez envie de le faire?
C'est une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne crois pas que les cours dans le secondaire posent de problèmes de droit d'auteur, donc je ne vois pas sur le plan juridique ce qui s'y opposerait. C'est plus des considérations techniques là qui à mon avis, rend la chose impossible.
Emmanuel Davidenkov.
Je pense que vous auriez des problèmes de droit d'auteur comme partout. Hein. Enfin, imaginez la chose à l'inverse. Si vous-même produisiez un cours en philo, puisque vous enseignez la philosophie, que vous le retrouviez utilisé à droite à gauche, ça ne vous ferait pas forcément plaisir. Non, moi j'ai vu des choses en mathématiques assez intéressantes dans le secondaire, avec depuis longtemps d'ailleurs, hein, des banques de données d'exercices où les enseignants, alors effectivement, c'est dans leur droit, organisent la circulation de tout cela. Mais c'est vrai que ce n'est pas extrêmement développé.
Alors, Emmanuel Davidenkov, quand on parle de l'école française, de l'éducation à la française, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la comparaison avec l'international, y compris dans le domaine de la pédagogie dématérialisée. Alors, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des MOOC ou des MOOC, c'est un acronyme anglais qui veut dire Massive Open Online Courses. Ce sont des cours en ligne, pour faire simple, qui sont interactifs, qui sont gratuits. Il y a notamment un site assez phénoménal, je trouve, qui s'appelle Coursera, qui regroupe les grandes universités américaines, mais aussi canadiennes. On a Hong Kong, Jérusalem, Édimbourg, Lausanne. Il n'y a pas d'université française. Est-ce à dire que sur cette question-là, la France a un petit train de retard, ou un gros train d'ailleurs?
La France est en mouvement. Ensuite, on aime bien se flageller, dire qu'on est en retard. Mais il se passe beaucoup de choses. On organise des conférences tous les ans à l'étudiant sur différents sujets. On en a fait une sur le numérique l'année dernière. On a vu des expériences remarquables dans tous les domaines. En médecine, vous avez des Lyonnais qui sont en train de réaliser des présentations en 3D de coupes anatomiques. Enfin, des choses extrêmement compliquées qui, jusque-là, étaient dessinées à main levée par le professeur. Donc d'abord, c'était scientifiquement inexact, parce que fait à main levée. Ensuite, les élèves dans l'amphi étaient en train de passer, de perdre leur temps, j'allais dire, à apprendre le dessin, alors qu'ils sont là pour apprendre la médecine. Bon, enfin, je prends uniquement cet exemple. Moi, je crois que la question de la diffusion du savoir, c'est pas une question aujourd'hui. D'abord parce qu'il y a une tradition de diffusion, une tradition du savoir bien commun. Donc ça va se faire, ça se fait déjà, ça va se faire de plus en plus. France Culture Plus est effectivement un très bon indice de tout cela. Ce que je trouve intéressant, c'est quand Pierre Tapie dit « Ouais, mais... » Et quand vous avez eu besoin, Hervé, d'un mot de passe pour accéder. Lui, ce qui vend, pardon, parce que les études sont payantes en plus à l'ESSEC, ce qui vend, c'est la pédagogie. Donc ce qui vend, c'est deux choses. C'est à la fois la relation, l'interactivité, avec, alors soit entre apprenants, comme vous dites, soit j'imagine avec un certain nombre de vos enseignants. Et puis ce que vous vendez aussi, c'est la certification, c'est-à-dire vérifier que tout ce qui a été mis à disposition a bien été acquis, compris, intégré par les étudiants et vos diplômes en ce qui vous concerne de l'ESSEC. Demain, l'université de Cergy-Pontoise, mettre en ligne tous les cours de l'université de Cergy-Pontoise, Je mets de côté cette question de droit qui est une vraie question qui embête tout le monde en France, mais vous allez finir par la résoudre. L'enjeu ensuite, c'est de savoir comment tout cela a été reçu, compris et appris. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, il est là. Il est pas tellement dans la diffusion massive, dans cette espèce de bibliothèque d'Alexandrie extraordinaire qui est devenue Internet.
Alors, cette façon de réfléchir au modèle du gratuit, elle nous ramène quelques années en arrière. Nous, journalistes, qui avons aussi été confrontés à cette question-là, de savoir comment est-ce que les contenus que nous produisons sont réutilisés ensuite, et puis de savoir aussi qui est pertinent et qui est légitime pour produire ces contenus. François Germinet, quand on dirige une université aujourd'hui, on est obligé de se poser ces questions-là.
Une petite anecdote, il m'est remonté pas plus tard qu'hier de mes enseignants la situation suivante. Ils mettent en ligne sur YouTube un certain nombre de cours, donc à disposition de tous, gratuitement, et ils se sont aperçus récemment que ces mêmes cours étaient vendus en Chine à des étudiants. Donc là se pose vraiment la question de la diffusion et puis ensuite du modèle économique qui permet de rétribuer le droit d'auteur, évidemment.
Pierre Tapie.
Par rapport à ces questions, il faut bien distinguer, Emmanuel Davinato vient de le faire, la partie qui est savoir générique public de la partie qui est une communauté particulière. Quand nos enseignants produisent des cas au sens pédagogique du terme, qui vont ensuite être utilisés dans le monde entier, bien évidemment, ils sont publics et ils sont diffusés. Et aujourd'hui, nous avons une production numérique qui est croissante, aussi bien sur des aspects de livres techniques, de livres pédagogiques, que sur des aspects de cours filmés qui sont ensuite diffusés, des grandes conférences, etc., et qui sont mis ainsi à la disposition de tous. C'est intéressant dans les pédagogies du numérique, c'est que ça permet de séparer la partie relativement fastidieuse de l'apprentissage, sachant qu'en plus tous les élèves n'ont pas les mêmes processus d'apprentissage, certains le font vite, d'autres le font un peu plus, modèle turbo-diesel, etc., de ce que va être la richesse d'une interaction avec un professeur. Et je crois qu'en arrivant à séparer de manière intelligente ces deux fonctions, ça permet d'avoir une amplification de la puissance d'apprentissage assez considérable, ça permet d'avoir un accès social à très grande échelle d'un certain nombre de cours, en particulier les cours de base qui peuvent être ainsi rendus disponibles, alors que le temps de l'enseignant, qui reste la variable la plus rare dans nos métiers, est un temps dévolu au bon apprentissage et à la bonne intégration par le jeune de ce qu'il a à apprendre. On peut imaginer même qu'à long terme, et ça modifierait considérablement nos pédagogies et même nos métiers, la mesure de la performance d'un professeur ne soit plus tant par le nombre d'heures de cours qu'il a donné, mais par le nombre de milliers de jeunes à qui le dispositif qu'il a inventé a permis d'apprendre ceci ou cela.
Alors, on a justement un enseignant dans ce studio, alors autant en profiter. Julien Gauthier, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit par Pierre Tapie? D'abord, est-ce que vous partagez cette vision particulièrement optimiste de ce que peut apporter les outils numériques à la pédagogie aujourd'hui?
Pas entièrement, c'est-à-dire que mon sentiment est plus mêlé. Et je voudrais, si vous me permettez, deux remarques un peu plus préalables et un peu conceptuelles. C'est que vous parlez de pédagogie dématérialisée, et je crois qu'il faut bien se rendre compte, d'une part, que ces technologies adaptées, enfin appliquées au monde éducatif, sont prises d'abord dans une logique industrielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la société de la connaissance, comme on dit, que d'autres appellent le capitalisme cognitif, où maintenant la matière première des échanges, de la production, de la diffusion, de la distribution et de l'économie, c'est la matière grise. Bon. Et donc, il faut bien voir que le marché de l'éducation est de plus en plus l'objet d'une guerre économique dans laquelle les acteurs de premier plan sont d'abord des multinationales. Donc ça, il faut avoir, je crois, en tête ce contexte, disons, économique.
Et ça veut dire que, selon vous, cette guerre économique, elle est d'autant plus forte que les nouvelles technologies lui permettent d'émerger, mais en tout cas de se renforcer peut-être.
C'est à travers cette nouvelle technologie que cette guerre se mène, par des dépôts de brevets, par des machines, par des conceptions de logiciels, par des conceptions de plateformes, de dispositifs techniques en général. L'autre point, c'est que l'expression d'immatériel me paraît assez mauvaise, dans la mesure où ces technologies sont fondamentalement matérielles, et même hyper matérielles en un sens. Hein, le silicium, c'est de la matière. Les réseaux informatiques, ce sont des data centers qui sont coulés dans des tonnes de béton. Et tout ceci est très matériel. On n'a pas quitté le monde de la production matérielle avec les nouvelles technologies.
Alors, je vais quand même essayer de défendre un peu notre titre, hein, qui fait référence à cette dématérialisation. On pensait aussi au fait que aujourd'hui, on a peut-être plus, en tout cas, besoin d'être présent physiquement dans un amphithéâtre pour suivre un cours, et notamment pour le suivre en amont et préparer ce que va être le cours. Alors je voudrais qu'on laisse une petite place pendant quelques instants à une étudiante qui nous a rejoint. Elle s'appelle Assa Samaké. Bonsoir Assa.
Bonsoir.
Alors je vais tout dire, il se trouve que vous êtes stagiaire dans notre équipe, que vous avez été étudiante à Limoges, vous êtes passée par Édimbourg pour revenir jusqu'à la Sorbonne et vous nous avez raconté ce matin comment ça se passait lorsque vous étiez à l'université d'Édimbourg. Vos cours, vous les aviez avant le cours.
Exactement. En fait, il y avait une plateforme sur Internet qui s'appelait WebCity, sur laquelle tous les étudiants inscrits à l'université étaient enregistrés automatiquement. Et pour la plupart des cours, donc je pouvais prendre par exemple mes cours de politique sociale, les cours étaient disponibles en ligne avant en fait le cours en amphithéâtre. Donc on pouvait préparer le cours avant que le professeur en chair et en os vienne nous le délivrer. Et on avait aussi tout le matériel pour préparer ce qu'on appelait les tutorials, c'était les TD en fait en petits groupes. Donc on avait tous les textes indispensables à la préparation des cours et des TD sur WebCity.
Ça, c'était fondamentalement différent de ce que vous aviez connu à Limoges ou de ce que vous alliez connaître à la Sorbonne ?
Exactement, parce qu'à Limoges, on avait aussi une plateforme en ligne qui était un peu différente, qui était beaucoup plus maigre en contenu. Et théoriquement, les professeurs devaient aussi mettre du contenu pédagogique en ligne, mais ils le faisaient très, très rarement.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une réticence d'ordre culturel, et Emmanuel David-Enkoff, qui expliquerait ces différences entre, par exemple, donc, l'université d'Édimbourg et puis les universités françaises ?
Et puis, ce n'est pas valable seulement à Édimbourg, c'est valable dans toutes les universités anglo-saxonnes aux États-Unis. C'est un endroit où on considère que quand on arrive en cours, le savoir disponible, on en a pris connaissance et qu'on va essayer d'aller plus loin avec le professeur. Au nom de quoi, on a beaucoup moins d'heures de cours, ce qui accessoirement permet aux enseignants de recevoir les étudiants de manière individuelle et de mener leurs recherches dans des conditions différentes de ce qui peut se passer en France. Et on n'a pas forcément des étudiants plus malheureux. On n'a surtout pas forcément des universités de moins bonne qualité.
C'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée, Emmanuel David-Enkoff.
Sans doute. En tout cas, on inverse l'ordre. Enfin, je pense qu'on appelle ça de la pédagogie, au sens où il y a un dispositif qui vise à ce que ça fonctionne. Une petite remarque quand même sur les grandes entreprises et sur le combat et ces formes de marchandisation et le matériel. Moi, j'ai assisté il y a quelques mois à un colloque tout à fait intéressant sur les enjeux du numérique dans l'éducation, avec des acteurs publics, associatifs, il y avait le banc et l'arrière-banc, privés aussi. C'était dans les locaux d'une grande entreprise de logiciels informatiques, une multinationale. Là, c'était les locaux français, mais c'était cette grosse boîte de Seattle, je pense que chacun voit de laquelle je parle. En attendant, et j'en faisais la remarque à ces personnes qui venaient du monde associatif, qui venaient de l'éducation nationale, je leur disais, c'est quand même étrange qu'on ne soit pas rue Grenelle au ministère de l'éducation nationale. Mais le même colloque, je n'y ai pas assisté, rue Grenelle au ministère de l'éducation nationale. Donc, si vous voulez,
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un aveuglement de la puissance publique et un retard à l'allumage.
La nature est horreur du vide.
Absolument.
Ils y viennent avec plutôt des choses en termes de réflexion, y compris intéressantes.
Et juste pour préciser que ma remarque ne visait pas à attaquer les industriels en tant que tels. Et je crois qu'il y a eu des alliances entre puissance publique et industrielle en matière éducative depuis le 19e siècle, quand les manuels scolaires se sont développés par millions d'exemplaires. C'était avec une alliance avec Hachette. Bon, simplement, c'était une alliance qui était faite avec un cahier des charges public très, très strict dont on ne voit pas ici, là, pour le moment, le début.
Vous dites qu'il y a un aveugle de la puissance publique, Julien Gauthier. La puissance publique, elle a des interlocuteurs, notamment la conférence des présidents d'université. François Germainet, je vous ai vu réagir à un certain nombre de choses qui viennent d'être dites sur...
Oui, l'expérience de cette étudiante est extrêmement intéressante, mais comme le disait Emmanuel David-Enkoff en début d'émission, ne nous flagellons pas non plus trop, car énormément d'initiatives ont été menées par les universités. Elles ont quasiment toutes des environnements numériques de travail auxquels les étudiants se connectent automatiquement lorsqu'ils arrivent à l'université et où ils retrouvent une bonne partie de leurs ressources numériques. Au-delà de ça, et là c'est une impulsion de la conférence des présidents d'université et puis du ministère. Il y a des universités numériques thématiques qui se sont créées. Elles sont au nombre de 7, en santé et sport, en sciences de l'ingénieur, en droit et sciences politiques, en économie, en développement durable, en sciences. Donc vous voyez, un foisonnement de ressources qui sont mises à disposition. Mais pour revenir au titre de votre émission, je voudrais faire une distinction entre la dématérialisation du savoir et la dématérialisation de la pédagogie. Donc c'est pas exactement exactement la même chose. C'est une chose de mettre à disposition en ligne des choses, des cours. Ça se faisait déjà avant avec les polis sous forme papier, et puis maintenant on les retrouve sous forme vidéo ou bien numérique dans les ENT. Et c'en est une autre que de dématérialiser l'acte même de la pédagogie. Il ne faudrait pas s'imaginer que la dématérialisation du savoir, c'est la suppression de l'acte pédagogique. On peut tout à fait créer des classes virtuelles, et c'est ce que nous faisons. On peut créer des classes virtuelles qui avec des temps synchrones et des temps asynchrones de travail, où les étudiants à distance, parce qu'ils sont par exemple en situation de salariat, eh bien, des étudiants à distance vont pouvoir interagir avec des professeurs et d'autres élèves.
Pierre Tapie, je vais citer un philosophe, Michel Serres, qui dit « L'université physique est désuète ». Alors lui, il enseigne à Stanford, il dit « Je dois prendre l'avion, mais je pourrais tout à fait aussi bien aujourd'hui donner mes cours depuis mon domicile. Ça ne changerait rien, les outils nous le permettent ». Est-ce que ces nouveaux outils technologiques obligent aussi à repenser la façon d'enseigner et donc la pédagogie ?
Oui et non. Comme il a été dit tout à l'heure, le fait de préparer les cours avant et d'utiliser l'amphi comme un lieu d'interaction avec les étudiants, c'est beaucoup plus la culture de l'institution universitaire qui va le dire que la technologie. Et il y a 35 ans, quand j'étais à l'école polytechnique, il n'était pas question d'aller en cours sans avoir lu et bossé le poly, sinon de toute façon, on n'y comprenait strictement rien. Donc cette dimension d'inversion est quelque chose qui simplement dépend du lieu pédagogique où l'on est. Ensuite, il est vrai, et je m'associe à ce que dit François Germinet, que quand vous donnez un cours d'un enseignement de doctorant et que le séminaire à qui vous allez le donner, il va rassembler 5 personnes. Eh bien, si vous avez la chance d'avoir des technologies de vidéo et de numérique, vous pouvez en avoir une en Allemagne, une en France et une à Singapour. Ça nous arrive très souvent d'être dans des situations pédagogiques comme ça, de ce type. Et plus la pédagogie est une pédagogie pointue qui s'adresse à des étudiants très spécialisés, plus on va avoir intérêt à faire quelque chose de ce type-là.
Mais vous voulez dire que ça ne peut pas fonctionner pour un enseignement de masse ?
Non, je ne veux pas dire ça. Je veux dire que dans l'enseignement de masse, les techniques numériques peuvent avoir le gros avantage de donner accès à la connaissance de base à la dimension de masse, d'une part, mais d'autre part, en fonction des cours et en fonction des pédagogues, parce que tous les pédagogues ne sont pas adaptés à n'importe quel type de cours, l'amphi à 400 personnes avec un pédagogue exceptionnel peut rester une expérience pédagogique tout à fait extraordinaire, sachant que dans d'autres matières, il peut y avoir au contraire des gens qui ne travaillent bien que dans des cours à 40 ou 50 de manière très interactive. Ça dépend des disciplines, ça dépend des enseignants, mais je ne crois pas que le rendez-vous pédagogique physique collectif entre un enseignant et une classe ou un amphi soit quelque chose qui va disparaître.
Vous évoquez des amphis de 400 places.
Il prend l'avion, Michel Serres, dans votre histoire.
Il prend quand même l'avion, mais je crois qu'il...
Donc ce que dit Pierre Tapie est probablement juste.
Il préférait peut-être ne pas le prendre. Vous évoquez les amphis à 400 places. François Germinet, j'ai lu quelque part qu'à Cergy-Pontoise, ces amphis-là n'existent plus aujourd'hui.
Alors effectivement,
est-ce que c'est lié aux nouvelles technologies
dans un certain nombre de composantes universitaires chez nous, et il y a eu un reportage télévisé sur ce qui se passait en sciences à l'université de Cergy-Pontoise, et là nous avons supprimé les amphis, mais ce n'était pas pour les remplacer par une version dématérialisée, mais c'était au contraire pour les remplacer par ce que nous appelons des cours TD intégrés, c'est-à-dire une relation encore plus étroite présente entre l'étudiant et le professeur. Donc vous voyez que ici la démonstration allait dans le sens inverse de votre question. Et pour réagir et très modestement, je pense que je suis en désaccord avec ce que Michel Serres, ce que vous rappeliez des propos de Michel Serres. Comme le disait Pierre Tapie, s'il s'agit d'avoir accès à un certain nombre de ressources pédagogiques très très spécialisées, très pointu, eh bien, ça peut se faire à distance. Par exemple, lorsque je fais une conférence de maths dans mon domaine de recherche, eh bien, ça peut très bien être retransmis en vidéo à l'autre bout de la planète. Ça pose aucun problème.
Et donc, vous ne voyez pas les amphis disparaître à court terme ?
Non, mais la classe virtuelle, c'est autre chose. Et ça se travaille en petits groupes entre un professeur et puis des étudiants qui sont à l'autre bout de leur clavier et de leur écran et qui interagissent de manière synchrone, en temps réel.
Il ne peut pas y avoir, Emmanuel Davydenkov, des considérations économiques qui pourraient aussi justifier le fait qu'aujourd'hui, on plaide pour une utilisation massive de ces nouvelles technologies. Alors, je reste sur mon exemple de cours à distance. à distance, on peut donner des cours à un nombre infini d'étudiants. C'est notamment le cas de ces universités en ligne qui accueillent. Alors, je crois qu'il y a eu un Stanford, justement, qui a lancé son premier MOOC, qui a accueilli très vite, je crois que c'était 16 000 étudiants en ligne. Un seul prof, autant d'étudiants, ça coûte beaucoup moins cher. Emmanuel Davidenkopf.
Oui, à ce prix-là, du grain à moudre sur France Culture coûte encore moins cher et touche probablement encore plus de monde. Le problème, c'est pas anodin d'ailleurs que Cergy Pontoise ou d'autres universités qui sont des universités nouvelles soient assez pionnières dans ce domaine-là. La question n'est pas de délivrer des savoirs à 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions de personnes quand on enseigne, quand on accepte des étudiants. La question est d'arriver à permettre à chacun de ces étudiants de s'approprier ses savoirs et ou ses savoir-faire et ou ses savoir-être, etc. pour en faire quelque chose par la suite dans son existence, que ce soit dans le domaine intellectuel, dans le domaine citoyen, en tant qu'être social ou également sur le marché de l'emploi, que ce soit un marché public pour devenir, je ne sais pas, enseignant-chercheur, enseignant dans le secondaire ou sur le marché privé. Donc je pense que la problématique de François Germinet ou de Pierre Tapie, c'est pas de diffuser les cours à 10 millions de personnes, c'est d'être en mesure de vérifier pour les étudiants inscrits qu'ils ont bel et bien acquis et compris. Donc si vous voulez, c'est là où je distingue vraiment les deux choses. Et une université comme Cergy Pontoise, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, hein, mais...
Allez-y, vous êtes là pour ça.
On va moudre un petit peu de grain. Il y a un certain nombre d'universités en France qui, dès leur naissance, et Cergy Pontoise a à peine plus de 20 ans, ont été confrontées à des publics qui n'étaient pas massivement, il y en a un, mais qui n'étaient pas majoritairement les publics historique de l'université française. Et donc tout de suite, ils se sont dit, ils sont là, on va les aider à réussir, et ils ont interrogé leur modèle pédagogique. Bien, pour dire les choses, vous avez des endroits où ça va parfois un peu plus lentement, parce que ce sont des institutions qui n'ont pas forcément, dès le début, compris que les publics étaient en train de changer, parce que le public de l'université, c'est facile aujourd'hui de dire que c'est plus le public d'il y a 30 ans, mais ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, ça s'est passé en 30 ans, donc il a changé petit à petit. Et cette mutation n'a pas forcément été vue, et un certain nombre d'enseignants-chercheurs, Dieu merci aujourd'hui, je crois vraiment pas la majorité, mais un certain nombre d'entre eux, pendant des années, ont continué à se dire, non, nous sommes l'université, l'alma mater, et on ne changera pas nos façons de faire, c'est aux étudiants de changer. Et puis aujourd'hui, je crois que tout le monde a pris acte du fait que les étudiants, dans un certain nombre de cas, avaient changé, et qu'il fallait proposer des modalités pédagogiques, des modalités de transmission du savoir, qui leur permettaient tout simplement de réussir. Et puis les premiers heureux dans ce genre de situation, je vais vous dire, évidemment, c'est les étudiants, mais c'est les enseignants-chercheurs. Ils sont ravis quand ça marche.
Pierre Tapie, est-ce que c'est ça la bonne façon de réfléchir à la question qui nous rassemble ce soir, plutôt que de se demander comment l'université et les grandes écoles doivent s'adapter aux nouvelles technologies, ce qu'il ne faut pas se demander, comment les universités et les grandes écoles doivent s'adapter aux nouveaux étudiants qui, eux, sont nés avec les nouvelles technologies?
C'est les deux, en fait, en entendant ce que disait Emmanuel Davidenkopf, et je suis complètement d'accord avec lui. Je me faisais deux remarques. La première, c'est que dans nos institutions, sur ces sujets-là, la formation continue a précédé souvent la formation initiale. Tout simplement parce qu'en formation continue, l'ESSEC a créé son centre de formation continue il y a 45 ans, on est obligé de s'adapter aux exigences de publics extraordinairement variés. On a une action de promotion sociale qui est extrêmement engagée et qui se déroule à grande échelle. On a 5000 personnes en formation continue à l'ESSEC, dans des programmes très différents. Et ça amène à accueillir chacun des publics en fonction de son âge, de sa disponibilité, de son processus d'apprentissage, etc. Ce qui nous a amené à utiliser massivement ce genre de technologie, d'abord en formation continue. Là où ce que vous dites est important, c'est qu'on est en train de recevoir en effet une génération de digital natives. Et des jeunes qui ont des schémas cognitifs dans lesquels le visuel en particulier est devenu relativement plus important en proportion que ce que pouvait être la structuration hypothétique ou déductive logique, sont des jeunes dont les processus d'apprentissage ne sont pas exactement les mêmes. Et là, pour le coup, ça interpelle fortement les enseignants, parce que faire quand on est dans une classe, que la classe soit de 50 ou de 300, ça n'a aucune importance, quand tous les gens qui sont autour de la table sont avec leur petite tablette en train de vérifier si Wikipédia dit la même chose, mais Wikipédia est un système non robuste, et si l'encyclopédia universaliste dit la même chose ou autre, et ça amène les étudiants, pendant l'apprentissage eux-mêmes, à dessiner un espèce de jeu de carte mentale impressionniste, qui est quelque chose qui déroute pas mal les enseignants qui ont un certain nombre d'années de bouteille d'enseignement, parce qu'on voit bien que la manière avec laquelle les jeunes apprennent n'est pas exactement la même. Et là, c'est très intéressant.
Vous avez l'impression, Julien Gauthier, que ces questions-là, elles sont prises en charge aujourd'hui par l'Éducation nationale, et comment est-ce que vous gérez cette complexité dans votre classe?
Non, je ne crois pas que l'éducation nationale prenne bien en charge ces transformations. Maintenant, je ne crois pas non plus que le système scolaire dans son ensemble, de la maternelle au Collège de France, ait forcément essentiellement à s'adapter ni aux nouvelles technologies ni aux nouveaux publics. En tiennent compte, certes, mais on sait aussi que ces nouvelles manières de penser ou ces nouvelles constructions cérébrales des digital natives ne sont pas sans poser problème. C'est-à-dire que c'est aussi des pratiques addictives, des pratiques d'hyperactivité, de difficultés de concentration. Et je ne suis pas sûr qu'on ait forcément à aller entièrement dans ce sens-là en multipliant les tablettes en cours, les Twitter, etc.
Dans votre cours, par exemple, les élèves peuvent se servir de leur smartphone ou de tablette numérique?
Non, dans mon cours, non, mais ça ne tient pas à mon cours, ça tient à un interdit général dans les salles de classe de l'établissement. Nous, en tout cas dans le secondaire, on se bat plutôt contre les téléphones qui continuent à sonner alors qu'on est en train de faire cours. Bon. Donc il n'y a pas encore d'utilisation. Personnellement, je suis très sceptique sur ce qu'on peut faire avec un téléphone de manière scolairement ambitieuse. Je ne vois pas une tablette. Je ne dis pas, un Kindle, c'est possible, un ordinateur c'est certain, mais avec des téléphones, je ne vois pas ce que ça peut apporter aux classes.
Est-ce qu'avec ce qui vient d'être dit, on ne se retrouve pas aussi sur un terrain? Alors j'évoquais tout à l'heure le terrain de la presse, il y a aussi celui de la culture, avec opposition entre culture pour tous et culture pour chacun. Est-ce qu'avec les technologies, on n'est pas en train d'essayer de faire passer l'idée d'une individualisation de la pédagogie, chaque élève devant être d'une certaine manière client du système éducatif, Julien Gauthier?
Oui, mais alors si chaque élève devient client du système éducatif, moi ça m'inquiète. Et je crois qu'il y a quand même un peu des mythes là qu'il faut aussi relativiser. Le mythe de l'accès à tous, le mythe de la mise à disposition généralisée, le mythe du quasi-autodidacte individuel qui n'aurait plus qu'à chercher, à butiner dans un savoir déjà entièrement disponible et prêt. Comme l'a dit Emmanuel Devedienkov, il y a d'une part la diffusion, mais ça n'a jamais suffi. Ensuite, il y a l'intériorisation du savoir, il y a l'appropriation, il y a la compréhension. Donc quand Michel Serres dit au fond il n'y a même plus besoin de transmettre parce que tout est déjà transmis, à mon avis il confond la transmission au sens télégraphique du terme avec la transmission au sens pédagogique du terme.
Bon. Emmanuel Davidenkov.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. Je ne sais pas si Michel Serres peut être remettre dans le contexte, parce qu'il est pas tout à fait idiot, donc je pense qu'il avait il a été au-delà pour ce qui était de la transmission. Non, un établissement transmet aussi un regard sur le monde, un certain nombre de valeurs, une déontologie, une identité pour un certain nombre d'entre eux. Et tout ça, c'est effectivement, ça renvoie au collectif et certainement pas à l'individuel ou à l'individualisation. Ceci étant, je trouve quand même que, vous disiez de la maternelle au Collège de France, prenons ne serait-ce que le primaire, s'il y avait un poil plus de tablettes, il y a des petites applications formidables pour tout ce qui est tâches répétitives, qui ennuient prodigieusement les instits et les élèves d'ailleurs, mais par lesquels il faut passer, du type apprendre les tables de multiplication, la machine fait ça aussi bien, de vérifier que vous avez coché une case ou de machin, etc., temps pendant lequel l'enseignant peut, là encore, faire autre chose et l'élève apprend de manière tout à fait ludique. Donc je trouve que, c'est ce que vous disiez, il ne faut pas être tout ou rien, je suis sûr, certainement pas sur du tout ou rien. Je trouve que dans le scolaire, vraiment, on est dans un tel rien qu'il faudrait qu'il y en ait un peu quand même.
Ce que je crois, pour ma part, c'est qu'il faut réussir à articuler ces nouvelles technologies avec, disons, les technologies traditionnelles de l'enseignement, que sont le livre, que sont la classe, que sont l'enseignant lui-même. Et que pour articuler intelligemment et finement, il faut prendre un certain nombre de précautions. À titre personnel, je suis plutôt contre l'introduction des nouvelles technologies en primaire. Parce que je crois qu'il vaut mieux construire d'abord certaines capacités cognitives plus fondamentales avant de confronter les élèves à des écrans qu'ils ont déjà par ailleurs chez eux.
Et moi, je fais confiance justement parce qu'ils les ont à la maison aux enseignants pour essayer justement de rattraper éventuellement des choses qui pourraient être faites de manière justement addictive. Qu'il faudrait déjà qu'il y ait une formation des enseignants, il faudrait qu'on leur mette.
Parce que là, c'est la formation des enseignants.
Mais je vous dis, si les enseignants ne le font pas, on sait ce qui va se passer. Dans un certain nombre de familles, le rapport sera.
Je suis d'accord, c'est pour ça que l'école doit s'en saisir.
S'il vous plaît, Julien Gauthier, Emmanuel Davidenkov, nous sommes là, justement, sur cette question de la formation des enseignants, François Germinet. Est-ce que l'université française propose aujourd'hui suffisamment de formation, alors non pas pour tout de suite, mais en tout cas pour permettre de créer cette communauté éducative qui soit totalement adaptée à ces nouvelles environnement technologique?
Alors, il y a déjà les certificats informatiques qui, niveau enseignant qui existent. Et par exemple, à l'université de Cergy-Pontoise, on a formé l'année dernière à peu près 800 étudiants complètement à distance aux nouvelles pédagogies numériques. Et il me semble que dans la réforme des instituts universitaires de formation des maîtres qui vont devenir des écoles supérieures de professeurs et d'éducation, eh bien, il y a dans le cahier des charges explicitement la sensibilisation, la formation des futurs enseignants aux modalités pédagogiques. Mais je voudrais faire une remarque un peu en passant. L'accès massif à des ressources, ça existe déjà depuis longtemps, ça s'appelle le livre. Et on ne s'est jamais posé la question jusqu'à maintenant, lorsque un professeur écrit son livre, de faire valider ensuite par l'ensemble des personnes qui le lisent un examen à la fin. Alors, ce qui est amusant, c'est que ici, ces nouvelles technologies introduisent un nouveau paradigme. C'est pas parce qu'il y a des nouvelles technologies qu'il faut absolument changer toute notre pédagogie. La radio est arrivée, la télé est arrivée, les cours n'ont pas forcément été modifiés.
Ça, c'est... Je suis pas certain de ça, quand même. Ça n'est pas totalement modifié la façon d'apprendre, quand même.
Mais je rejoins en 10 secondes Pierre Tapie. Ici, il se passe quelque chose de particulièrement étonnant avec les nouvelles technologies, Internet, les réseaux sociaux, etc., qui fait que là, on s'interroge un peu plus qu'on ne le faisait auparavant.
18h56 sur France Culture, l'heure du contrepoint de Julie Gacon. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
La maîtrise de la technologie passe-t-elle aussi par la maîtrise des outils technologiques et de la façon dont ils sont peut-être fabriqués? C'est votre contrepoint ce soir.
Oui, c'est aussi ce que vous disiez à l'instant. Poser la question d'un équipement numérique à l'école et à l'université, ça suppose, pour que la démarche ait un sens, en tout cas un vrai travail de formation des enseignants et des élèves à ces outils. Et il se trouve que j'ai rencontré au Salon de l'étudiant samedi un artiste français qui a une approche assez particulière de la question. Il revient d'un long séjour en Amérique latine où il donnait à l'université des cours de ce qu'il appelle d'expressivité computationnelle. Il les donnait aux étudiants d'ingénierie électrique, mais aussi à tous ceux que ça intéressait. Il s'appelle Étienne Delacroix et il regrette l'absence d'une vraie culture digitale en Europe, qu'il s'est attaché justement à enseigner à ses élèves du Brésil et d'Uruguay à sa manière.
On n'avait pas de machine et donc on a commencé à récupérer les vieux ordinateurs. C'est-à-dire que vous recevez des camions d'ordinateurs de l'armée qui sont tous pourris et vous devez vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette matière. Et la première chose que vous faites, c'est systématiquement tout trier et tâcher de remettre en marche de la puissance de calcul, quelle qu'elle soit. Et il y a eu ce travail où, en fait, les étudiants, ils devaient construire l'ordinateur qu'ils allaient utiliser. Et en fait, ce qui en est sorti, c'est qu'il y avait effectivement des possibilités de faire de très intéressantes hybridations des situations entre l'Europe et l'Amérique latine. Mais on ne va pas du tout dans cette direction-là. L'outil numérique est pris dans son aspect performant, nouveauté, sans arrêt, et n'est absolument pas pris comme un substrat de forme élémentaire invariante qui traverse le temps. Je veux dire, les bits des tablettes numériques sont les mêmes que celles des dinosaures des années 50. Et ça, les gens ne peuvent pas comprendre. C'est difficile à comprendre si on n'a pas l'occasion de faire comme on fait quand on emmène les enfants voir les œufs et les lapins à la ferme. Eh bien, il faudrait faire ce travail avec la matière des boîtes noires. On aurait pu le faire, mais cette opportunité-là est passée, puisqu'on a en fait jeté à la poubelle une quantité incroyable de cette matière qui maintenant est remplacée par une nouvelle matière ultra miniaturisée. Il y a eu une fenêtre d'opportunité. Quelle est la prochaine fenêtre d'opportunité?
Étienne Delacroix en version longue sur notre site. Dernier petit mot, Pierre Tapie, des cours d'expressivité computationnelle bientôt à l'ESSEC?
Pourquoi pas? Nous sommes toujours à la recherche d'intuitions nouvelles.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à vous Pierre Tapie, Julien Gauthier, François Germinet et Emmanuel Davidenkoff. Je vous rappelle donc ce nouveau site France Culture Plus. .fr, nouvelle plateforme à destination des étudiants. Cette émission du Grain Moudre, vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an et l'exporter sur votre site ou sur votre blog quand vous le souhaitez. Demain, existe-t-il encore un projet politique israélien? Ce sera de 18h20 à 19h.